Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
21 de junio, Brasil et Italie.
Prepara-se agora, Tostão cobrou para Rivelino e mandou a boca na meta, pula pela cabeça e o gol!
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Dans nul pays plus qu'au Brésil, le football affirme son omniprésence. Dans la presse, à la télévision, sur Internet et plus largement au cœur des passions populaires. Au quotidien des relations sociales et de la confrontation des sensibilités nationales. Au moment où va s'ouvrir là-bas la Coupe du Monde, 5 fois remportée par le Brésil en 1958, 62, 70, 94 et en 2002 sur 4 continents, au moment où va s'ouvrir là-bas la Coupe du Monde, il fallait évidemment que France Culture s'y intéressât longuement et que cette émission s'y attachât pour aller débusquer les origines d'une telle intimité entre un sport spécifique et tout un peuple. Que dis-je, un sport, bien plus, une manière d'être au monde et peut-être une façon originale d'appréhender l'existence individuelle et collective. Yves Saint-Jour, historien de l'Amérique latine, a été président de l'année de la France au Brésil en 2009, puis notre ambassadeur à Brasilia. Avec lui, nous allons explorer ce matin, au-delà du football en soi, ce qu'il peut nous apprendre sur ce vaste pays de 200 millions d'habitants qui est en prompte évolution, sur ses mutations profondes, sur les freins qui les entravent, sur ses fiertés planétaires, comme sur l'image qu'il entretient de lui-même dans la longue durée. Il s'agit de vaillance et il s'agit d'argent. Il s'agit d'exploits lumineux et de corruptions diverses. Il s'agit de violences canalisées et de pulsions irrépressibles. Nous allons en somme parler du Brésil au miroir du football. Pour commencer, je voudrais vous transporter à Rio de Janeiro le 16 juillet 1950, le jour où, à la stupéfaction générale, le Brésil, en finale, en face de l'Uruguay, a perdu la coupe.
Les femmes s'embrassent, les petits garçons, les petites filles sont portées sur les épaules. C'est la fête dans la tribune. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Uruguay égalise. Il égalise par qui? Parce qu'il y a Finot. But superbe. Alors, bien entendu, dans le stade, c'est une espèce de... pas de désillusion, un moment de stupéfaction. Mais après tout, 1-1, ça suffit. On va continuer à leur faire voir. Et puis, on va marquer 2 ou 3 buts, bien sûr. Et puis, l'invraisemblable arrive. L'invraisemblable arrive parce que ce qui n'était pas prévu, c'est que Kitia, petit ailier uruguayen, va marquer un 2e but. 2-1. Il reste un quart d'heure à jouer. Et un quart d'heure, quand on s'appelle le Brésil, c'est un monde. Ils vont finalement égaliser et finalement gagner. Eh bien, pas du tout. Ça se termine 2-1. Alors là, le Maracana, c'est quelque chose de fabuleux pour ceux qui y étaient. Jacques de Rizy, qui est nazi, nous l'ont raconté 100 fois. Il me dit, c'était une atmosphère... d'enterrement. D'un seul coup, il n'y a plus de maillots pour les faire voltiger, il n'y a plus un mot prononcé, il y a bien quelques Uruguayens venus de Montevideo qui gesticulent, mais ils sont noyés dans une foule, et quelle foule, 200 000 spectateurs. C'est la stupéfaction, personne ne dit plus rien, le terrain est envahi, il se passe une cohue indescriptible, personne ne sait plus où on en est, et là, il y a des drames qui éclatent. Car à l'extérieur du stade, on apprend qu'il y a des suicides. Il y a des Brésiliens qui se sont suicidés, que la police brésilienne est obligée d'intervenir. On entend les voitures, vous savez, les sirènes. Pourquoi? Non pas pour disperser la foule, mais pour ramasser des blessés. Il y a des gens qui n'ont pas supporté ça. Alors, sur le terrain, il y a une scène inoubliable pour les Français. C'est qu'au milieu de cette foule en délire, il y a quand même un Français. On est toujours là. Hein. Ce Français, c'est Jules Rimet, le petit monsieur Rimet, qui, lui, n'a qu'une obsession. Il veut remettre la Coupe du Monde au vainqueur. Donc, au capitaine uruguayen, Andrade. Et tout seul, il se faufile. Il essaye de trouver, au milieu de la foule en délire, quelqu'un qui veuille bien prendre la Coupe du Monde. Et finalement, il trouve Andrade, il lui remet la Coupe du Monde comme en cachet. Tiens, voilà la Coupe du Monde. Et il repart se remettre dans les tribunes. La Coupe du Monde de 50 a été donnée au capitaine comme ça.
Yves Saint-Jour, bonjour.
Bonjour.
C'était Max Urbini qui a été grand reporter à l'équipe et à France Football qui évoquait sur Radio Bleu le 19 avril 1998 ce moment dramatique pour le Brésil de sa défaite de 1950. On peut observer qu'au musée du football de Sao Paulo, le rite de passage, c'est le nom d'une salle obscure tendue de noir qui évoque le deuil de tout un peuple ce jour-là. Et vous le racontez dans un article récent de la revue L'Histoire.
Absolument, effectivement, le Brésil attendait de cette Coupe du Monde de 1950 une consécration. C'était la première fois qu'il organisait la Coupe du Monde. Il l'organise une seconde fois, et seulement une seconde fois cette année, 2014. Et il s'attendait à gagner. Dans le reportage, on entendait qu'il lui suffisait d'un match nul, parce que ça n'était pas vraiment une finale, c'était un groupe final de quatre équipes où il y avait l'Espagne, la Suède et l'Uruguay. Et il avait battu à plate couture l'Espagne et la Suède. Et l'Uruguay, lui, avait fait match nul avec la Suède. Et alors, du coup, le dernier match, qui était le match Brésil-Uruguay, il suffisait au Brésil de faire match nul. Et après avoir marqué le premier but, eh bien, il a encaissé deux buts. Et ça a été effectivement un drame national. Un drame national parce que le Brésil attendait de ce moment une espèce de consécration, une consécration internationale aussi, puisqu'il n'avait encore jamais gagné la Coupe, mais il était déjà une grande nation de football. Mais, et puis, c'était plus que ça. Il était en train de connaître une première émergence, une première nouvelle prise de conscience de l'extérieur pour ce pays.
Donc dès ce moment-là, le football exprime bien plus que le sport lui-même. Et cette atmosphère funèbre, c'est au fond l'expression d'un chagrin devant une émergence qui n'a pas encore été réalisée. On peut dire les choses de la sorte ?
Oui, on peut le dire comme ça, parce que d'année en année, il y avait la certitude que ce pays commençait vraiment à s'imposer, qu'il résolvait beaucoup de ses problèmes, même s'il y en avait encore de très nombreux, on y reviendra. Et c'est vrai que c'était tout à fait ça qui était attendu à ce moment-là. Peut-être que la meilleure expression de ça, c'est le stade Maracana, qui a été construit pour cette occasion, pour cette Coupe du Monde. Immense stade de près de 200 000 places. Et il y avait ce jour-là, dit-on, 173 500 personnes.
Vous les avez comptées une par une.
On les a pratiquement comptées une par une. Enfin, c'est ce que disent les reportages et les livres. Et ce stade avait une caractéristique dont il faut parler parce que les choses ont bien évolué depuis. Dans ce stade, les choses étaient construites de la façon suivante. Le peuple, les gens les moins riches, était proche du terrain, parce que c'était la partie qui était immédiatement autour du terrain, c'était les gens debout.
On lisait une hiérarchie sociale.
Il y avait une hiérarchie sociale, mais qui faisait que plus on était loin du terrain, plus on était riche.
Elle se matérialisait, elle se lisait sur place.
Elle se lisait sur place, puisqu'il y avait les gens debout, puis les gens sur des chaises amovibles, puis les gens sur des gradins et des sièges fixes.
Et cette année, cela va être différent. C'est le même stade, mais tout à fait changé, non ?
Tout à fait changé, puisqu'il n'y a plus qu'au total 74 500 places assises.
Ce sont les pauvres ou les riches qu'on a exclus ?
C'est une des discussions d'aujourd'hui, c'est de savoir si effectivement l'unanimisme social que le stade de Maracana 1950, immense, grande architecture, et on sait bien que l'architecture brésilienne, c'est quelque chose, et que ça commence dans ces années-là, les années 40-50, Niemeyer, Brasilia, etc. Ce stade Maracana qui exprimait effectivement ce peuple en émergence et cet unanimisme social. Aujourd'hui, il y a une vraie discussion sur le fait de savoir si la même société et la même unanimité est au rendez-vous. Alors, les inégalités étaient immenses en 1950, mais le football permettait justement, à ce moment-là, dans le régime si particulier de ces années-là, de réaliser quelque chose de ce type.
Eh bien, cette dialectique entre ce sport et une certaine hiérarchie sociale, le football et les élites, le football et le peuple, c'est ce que nous allons avoir à considérer, Yves Saint-Jour, au long de cette conversation. Car dès les débuts, on voit comment il a fallu du temps pour que la balle au pied, le football, arrivé d'Angleterre, puisse être approprié par les classes populaires.
Exactement. Au début, ce n'est pas du tout un sport populaire. Hein. C'est apporté par les Britanniques, à peu près comme tous les sports d'ailleurs. Et c'est tout à fait à la fin du 19e siècle. Il y a des éléments un peu légendaires, mais grosso modo, le sport est amené à São Paulo, dans un cadre effectivement de population urbaine, plutôt de classe moyenne ou aisée.
On cite le nom de Charles Miller, qui serait le père du football brésilien.
Voilà, il était né à São Paulo, c'était un fils d'immigrant, il était retourné en Angleterre, puis il était revenu avec deux ballons de football, dit-on, et en 1894-95, il organise les premières parties, entre les ouvriers du chemin de fer et les ouvriers du gaz. Quand je dis les ouvriers, les employés plutôt, précisément, ça n'était pas encore très populaire. Et il crée le São Paulo Athletic Club. Voilà, c'est vraiment une affaire urbaine et plutôt une affaire de classe moyenne au début. Et ça n'est que assez lentement, en réalité, que les choses vont se démocratiser et vont changer de nature.
À l'origine, ce sont les collèges, notamment des pères jésuites, qui vont lancer parmi les enfants des classes privilégiées ce sport, qu'ils ont emprunté à l'Angleterre, où ils sont allés.
Absolument.
Beaucoup d'entre eux, c'est vraiment... Enfin, Oxford...
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le football arrive comme ça, et puis il y a des vagues d'immigration. Très souvent, ils se structurent autour de ces immigrés. C'est-à-dire les premiers clubs s'appellent Portuguesa, Germania, Lusitania, Mackenzie, les collèges, etc. Et puis, progressivement aussi, ce qui va se passer, c'est que, à l'instar de ce qu'on va connaître dans d'autres pays du monde, il va y avoir deux clubs, souvent dans une ville, voire trois, qui parlent de la société. On a encore aujourd'hui en Europe, on l'a vu, pour Madrid, l'Athletic, le Real, Manchester City, Manchester United, l'Inter de Milan, le Milan AC.
Et Barcelone, la Catalogne en face de la Castille.
Voilà, exactement. Et il y a dans les clubs de sport, puis de football, cette traduction sociale de ces oppositions. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que des clubs sportifs qui avaient été créés deviennent des clubs de football. C'est-à-dire, très souvent, notamment à Rio, on est étonné de voir que le club de Flamengo, qui est un très grand club et considéré comme relativement populaire, s'appelle le club de régate de Flamengo, le club de régate du Vasco de Gama. C'est-à-dire qu'on commence par faire du sport, des rames, etc. Et puis on va passer au football, et c'est le football qui va véritablement donner à ces clubs leur identité.
Et comment expliquer que le football ait eu cette capacité d'absorption, en fait, de toute l'activité sportive, que ce soit installé au cœur de la vie quotidienne et du prodigieux attachement du Brésil pour...
Alors, au départ, il est, à l'instar de ce qui est dans les pays d'Europe, il est ce sport parmi d'autres sports qui prennent de la popularité. Et puis, la transformation massive, c'est effectivement quand tout le peuple brésilien va devenir acteur de ce sport, c'est-à-dire à partir des années 20 et surtout des années 30, quand les métis, les noirs, les gens du peuple le plus pauvre vont entrer dans la danse, si j'ose dire. Et le mot « entrer dans la danse », c'est vraiment tout à fait adapté pour le Brésil.
Voilà, la samba.
Et la samba et le football arte, le football art, qui va faire que les clubs vont se transformer complètement, vont devenir effectivement des clubs faits de joueurs de toute la société. Et à ce moment-là, progressivement, ça va devenir un mouvement collectif. Ça ne se fait pas en un jour.
C'est là que Pierre de Coubertin et son esprit s'éloignent progressivement, oui, jusqu'à disparaître à l'horizon.
Oui, on peut le dire comme ça, on peut le dire comme ça. Et les résistances ont été quand même très grandes, puisqu'il y avait quatre, par exemple à Rio, où ça va assez vite, il y avait quatre clubs qui se sont créés au début du 20e siècle, Fluminense, le Botafogo, le Flamengo et le Vasco. Et le Vasco va commencer à faire jouer des joueurs pauvres, noirs, métis. Il va dans un premier temps être ostracisés par les autres, qui vont essayer de créer un autre championnat, etc. Et puis finalement, le mouvement du football sera le plus fort. Et à partir de la fin des années 20, c'est fini. Le football, les clubs acceptent ces nouveaux venus.
C'est le moment pourtant où les hygiénistes prônent le blanchiment de la race. Et c'est la même période que les milieux sportifs sont mus par la recherche plutôt du talent. Il s'agit là de la fameuse anecdote de peau d'arrose, ça veut dire, je crois, poudre de riz, qui est unanimement connue dans le Brésil.
Voilà, parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Carlos Alberto qui se mettait effectivement de la poudre de riz sur la figure pour faire penser qu'il était blanc. Et quelques temps plus tard, il y a un très grand joueur qui s'appelle Friedenreich, qui est un joueur qui est métis, puisqu'il est le fils d'un émigrant allemand et d'une blanchisseuse noire du Brésil, qui se met beaucoup de gomina sur la tête pour faire passer le fait que ses cheveux sont crépus. Il y a vraiment un moment d'affirmation qui n'est pas très facile au début et puis qui progressivement va complètement s'imposer.
Le football reflète donc exactement la tension entre l'effort d'un certain nombre d'élites pour affirmer leurs différences, notamment quant à la couleur de leur peau, et puis l'arrivée de l'idéologie du métissage, dont un homme comme Gilberto Frère, Maîtres et esclaves, c'est un livre qui a eu énormément de succès, se fait à la fois l'analyste et le propagandiste.
Absolument. Dans les années 30, nous sommes en 1933, quand il écrit Maîtres et esclaves, de même que d'autres intellectuels, Buarque de Holanda écrit Racines du Brésil, et les racines du Brésil, Maîtres et esclaves, c'est entre guillemets, l'idéologie du métissage. L'idéologie du métissage qui montre que le peuple brésilien, il est fait de cette capacité qu'ont eu effectivement toutes les personnes arrivant pour se mélanger.
Et c'est d'ailleurs à cette occasion que s'affirme la spécificité réelle ou prétendue, affirmée ou rêvée, d'un football brésilien par rapport à un football continental. Le même Gilberto Frère écrit à propos du football « Notre style paraît contrasté avec celui des Européens par une conjonction de qualité, de surprise, de ruse, d'astuce, de légèreté et en même temps de spontanéité individuelle. Nos passes, nos dribbles, nos tromperies, nos fioritures avec le ballon ont quelque chose de la danse qui arrondit et adoucit le jeu inventé par les Anglais. » Dialogue entre le football et la samba, en somme.
C'est exactement ça. Et ils vont même très loin, plus loin que moi je ne souhaite aller, en expliquant que tout ça, c'est dans les gènes, en quelque sorte. Et que, en expliquant que le dribble brésilien, l'elastico, qui consiste à aller dans un sens puis dans l'autre, ou la pedalada, qui consiste à passer la jambe, etc. Et qui fait que les pieds et le bassin sont en quelque sorte solidaires pour se détacher du reste du corps dans cette espèce de mouvement.
Je voudrais que nos auditeurs voient vos gestes, vous exprimez ça voilà. Avec un talent, une efficacité voilà. Qui passera quand même grâce au micro.
Bon, écoutez, peut-être. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une idée presque un peu de qui est propre aussi de ces années-là, d'une espèce de caractéristique du peuple liée à ce métissage et à ses origines, et bien sûr africaines. Et donc, maîtres et esclaves se mélangent et finalement, on obtient ce mélange si particulier qui va faire du football une danse grâce à cette introduction de tous ces héritiers des immigrations, qu'elles soient esclaves ou non esclaves, au Brésil. Alors évidemment, tout ça en plus s'inscrit dans un moment très particulier qui est, à partir de 1930, le régime de Getúlio Vargas, qui est un régime intégrateur, inclusif, qui va faire de Gilberto Frère, de Maîtres et esclaves, un peu aussi une idéologie unanimiste du régime, qui va dire, voilà, le peuple brésilien, c'est ça, et il concourt tout entier à ce Brésil qui est en train de se transformer, qui est en train de s'urbaniser. Et évidemment, le football, les stades, c'est l'urbanisation du Brésil qui est en train de s'imposer. Et le régime de Vargas, c'est 1930-1945.
L'histoire de Vargas est peu connue en France et intéressante. Ce n'est pas vraiment un fascisme, c'est un autoritarisme peut-être corporatiste et qui va trouver avec le football l'occasion d'organiser un commerce singulier.
Absolument. Le régime de Vargas, effectivement, est autoritaire. Il supprime tous les partis politiques. Il explique que le collectif est plus important que l'individuel.
Ce qui est vrai aussi dans le football.
Absolument aussi. Et il a une politique sociale qui fait que, bien que ce soit un régime autoritaire, il va commencer les congés payés, la réglementation sur la journée de travail, sur le travail des femmes. Il va réellement être un régime d'intégration des masses, et notamment des masses urbaines, et les expressions de cette culturelle, en quelque sorte, et sociale de ces intégrations, outre les défilés du 1er mai ou les organisations qu'on connaît bien, ce type d'organisation qu'on connaît bien,
c'est le stade.
Eh bien, c'est le carnaval et le stade. C'est effectivement l'appropriation dans la culture sociale, en quelque sorte, des traditions afro-brésilienne, carnaval ou candomblé, etc. Et puis, c'est le stade, c'est le football, c'est l'émergence du football. Le Brésil émerge comme pays du football. En 34, il va en Italie, il est encore sélectionné. En 38, il est troisième en France. On l'a oublié, ça se passait au mois de juillet 1938 à Bordeaux.
On l'a un peu oublié parce que c'est le temps de l'opposition, surtout entre l'Italie fasciste
Exactement.
Et la France républicaine,
Exactement.
Qui concentre des émotions civiques. Mais le Brésil est déjà là.
Le Brésil est déjà là, il joue pour être troisième à Bordeaux en 1938. Et ce qui est intéressant, c'est que 1938, la Coupe du Monde en France, c'est le premier moment où les Brésiliens suivent les matchs à la radio, parce que bien entendu, tout ça est accompagné par les médias, par l'explosion des médias.
Nous avons entendu tout à l'heure, au milieu de notre générique, un goal que je n'essaierai pas d'imiter, mais qui exprime bien cela.
Exactement, et les matchs du Brésil en 1938 se retransmettent à la radio, et évidemment, il n'y a pas de Coupe du Monde pendant la période qui suit. 1950, c'est la première Coupe du Monde après la guerre, et voilà, le Brésil arrive et on est dans ce moment d'expression nouvelle qui est dans la prolongation du régime de Vargas, autoritaire. Puis à partir de 1951, puisqu'il est élu à la fin de 1950.
C'est un cas assez rare de dictateur qui se fait élire ensuite.
Voilà.
Non pas par un scrutin,
pas du tout.
Scrutin truqué, mais qui se fait vraiment élire et à une large majorité par le peuple.
Il se fait élire à une très large majorité par le peuple. Beaucoup à cause de cette politique sociale que nous avons évoquée. C'est d'ailleurs un régime quelqu'un qui va connaître une fin tragique, puisqu'il avait déjà été déposé par les militaires en 1945. En 1954, il est de nouveau cerné par des oppositions, les militaires, et finit le 24 août 1954 par se tirer une balle dans le cœur.
Avec une lettre fameuse adressée à son peuple.
Voilà,
malheureusement, il n'y parle pas de football, ce qui m'aurait arrangé pour cette émission.
C'est vrai. Il dit simplement à son peuple qu'il sort de la vie pour entrer dans l'histoire.
Oui, on ne peut pas trop insister, Yves Saint-Jour, sur ce lien entre la musique et le football que vous évoquez il y a un instant. Et je vous propose une samba qui est un hommage à Pelé, dont nous allons parler tout à l'heure, le roi Pelé, la star absolue de ce monde, Oreille Pelée, c'est une chanson de Jackson do Pandeiro. Ce seul nom est une rencontre entre les deux Amériques, Jackson do Pandeiro, qui est un célèbre joueur de samba brésilien. La chanson est de 1974.
Quem é aquele moço com a bola no pé? Uma bola no pé.
É o rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa pra ele.
Com uma bola no pé. É o rei Pelé.
de bolso com uma bola no pé.
É o rei Pelé.
Que nous dit cette samba, Yves Saint-Jour?
Ah ben, elle nous dit qu'il y a un mozo con una bola no pé, un type avec une balle au pied, et que c'est le roi Pelé.
Il est né avec une balle au pied.
Voilà, et qui ne connaît ni la défense, ni les gardiens de but, puisqu'il il marque, il est toujours le plus fort. Voilà, c'est le roi Pelé, bien sûr, qui va accompagner, alors après la défaite de 1950, qui va accompagner l'affirmation absolue du Brésil sur le football mondial, puisque lui-même, il va être champion du monde à 17 ans, en 1958, en Suède, et puis il va être le seul à avoir gagné 3 Coupes du Monde, en 62 et 70, vous l'avez dit tout à l'heure, et il est effectivement, le roi Pelé, le joueur de tous les temps. Il y a les superlatifs. La FIFA lui a donné un ballon d'or cette année. Le plus grand joueur de football de l'histoire, c'est ainsi. Et il accompagne, en quelque sorte, le football brésilien.
Et il incarne toute la modernité par rapport aux années 30. Je veux dire qu'on est entré dans le monde du professionnalisme. Et il accompagne aussi la diaspora des joueurs brésiliens sur la terre entière. Ce qui ramène à la question de l'émergence de la professionnalisation. Quand on est passé de la réalité ou du mythe de l'amateur qui venait précisément de la Grande-Bretagne à la conviction que c'est un métier comme un autre et qui d'ailleurs, quand on y réussit bien, mérite d'être rétribué de façon hyperbolique.
La professionnalisation, elle commence en réalité assez tôt. Hein. Elle commence déjà dans les années 30. Mais à cette époque, finalement, on gagne encore assez peu d'argent avec le football. Et d'ailleurs, beaucoup de footballeurs professionnels, aujourd'hui encore, gagnent assez peu d'argent.
On a l'attention braquée sur voilà. Les très grandes vedettes. Mais c'est le temps, il faut le rappeler, où en France, un Jules Ladoumec, qui est une très très grande vedette de la course à pied, est disqualifié et rejeté hors du milieu pour avoir accepté de se faire payer un ticket pour aller courir au Havre.
Exactement, c'est cette époque-là. On est exactement dans les mêmes, à la même époque. Le professionnalisme est accepté un petit peu plus tôt dans le football, mais il ne va s'imposer complètement que plus tard. Et pendant longtemps, ce qui se passe au Brésil, c'est que les footballeurs professionnels sont vraiment la propriété des clubs.
Encore un esclavage qui est peut-être prolongé, c'est exagéré, mais tout de même on peut rappeler que le Brésil est le dernier pays du monde dans les années 1880 à avoir aboli l'esclavage.
Absolument, et pour revenir à ce que nous disions juste avant, faire entrer ces joueurs noirs dans les équipes de football de clubs aristocratiques, au fond, on était, puisque l'esclavage effectivement a été aboli en 1888, donc 30-40 ans après la fin de l'esclavage, il faut comprendre un tout petit peu comment les choses se sont passées. Et puis, donc le professionnalisme intervient, c'est un peu la propriété des clubs, il y a un système qui s'appelle le passé, qui fait qu'on peut éventuellement aller d'un club à un autre, mais en réalité on est très stable parce qu'on est dans un système très paternaliste, possédé en quelque sorte par les clubs.
Sauf à apprendre soudain, comme certains, qu'on a été vendu.
Voilà, et c'est clair, il y a tous les récits le démontrent, que les footballeurs ne peuvent pas lutter et qu'ils sont en réalité un tout petit peu des instruments qu'on peut éventuellement vendre, bien que très souvent les footballeurs restent dans le même club pendant très très longtemps, notamment Pelé resté à Santos ou l'autre grande star, Garrincha, qui est resté au Botafogo pratiquement toute sa vie. Et puis, à partir des années 60, 70, 80, alors là, tout change et ça va beaucoup bouger. Le même Pelé, qui va être ministre des Sports, qui va être aussi un symbole, le premier ministre noir de l'histoire du Brésil, qui est ministre des Sports à partir du 1er janvier 1995, eh bien, avant la fin de son mandat comme ministre, il va faire adopter, en 1998, une loi permettant effectivement la libre circulation, en quelque sorte, des joueurs de football.
Une loi qui a été violemment discutée et même rejetée ou refusée, mais elle s'est finalement imposée.
Elle s'est finalement imposée.
Milieux des organisateurs et des présidents de clubs.
Exactement. Elle a été très discutée parce qu'effectivement, elle remettait en cause ce paternalisme et cette façon un peu de posséder les joueurs. Et en même temps, elle était inéluctable parce que, vous savez, il y a eu le fameux arrêt Bosman en Europe en 1995.
Rappelez-nous ce que c'était.
C'est cet arrêt européen qui fait que les joueurs peuvent désormais librement, à l'intérieur de l'Europe, circuler et négocier leurs propres contrats et qu'ils ont une liberté de mouvement et de contrat qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc c'est un peu l'image de la mondialisation de ce point de vue-là. Il y a une marchandisation et une liberté de circulation qui est de plus en plus grande du football et des footballeurs. Et la loi de 98 au Brésil qui met fin au passé, c'est-à-dire à ce système un peu de propriété des joueurs,
la loi Pelé,
au fond, va dans le même sens.
Alors dans cette émission consacrée au Brésil, ce que le football peut nous dire sur le Brésil, on doit s'attarder un instant sur la question du rôle de ce sport pour l'éventuelle ascension sociale d'un certain nombre de Brésiliens nés dans des milieux très défavorisés. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un mythe? Et si c'est un mythe, est-ce que cela peut avoir joué un rôle pour beaucoup d'autres qui ont vu là la possibilité d'échapper à leurs conditions?
C'est les deux, parce que il y a beaucoup de footballeurs au Brésil. Les footballeurs professionnels, la plupart du temps, sont issus effectivement de milieux modestes, très modestes, voire pauvres. Et quand on regarde toutes les trajectoires, en quelque sorte, des grands joueurs brésiliens, c'est très souvent des gens qui viennent des favelas, des quartiers plus ou moins défavorisés. Et en même temps, ils sont très, très peu nombreux à percer. C'est-à-dire que c'est extrêmement sélectif. Et au fond, à travers tout le dispositif qui est extrêmement efficace de sélection progressive, il y a ce qu'on appelle la passoire, peneira, qui fait que petit à petit, de quartier en quartier, d'école en école, eh bien, se fait le tamis qui va aboutir à ces joueurs de football professionnels de très grande qualité. Eh bien, s'il est vrai qu'on peut sortir de sa condition grâce au football, et finalement, les exemples abondent, les très grands joueurs de football brésiliens, très souvent, mais pas tous, viennent de ces milieux populaires. Et c'est vrai que c'est quand même pour peu de monde, c'est-à-dire que c'est une réalité et à la fois un mythe mobilisateur qui fait que quand on joue dans la cour d'école, dans le quartier, dans le terrain vague, sur la plage, toutes les formes de football d'ailleurs, eh bien on a l'espoir d'être appelé, de devenir riche et célèbre.
On s'est souvent interrogé au Brésil sur la question de savoir si le football pouvait jouer un rôle pour favoriser l'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que c'était vrai jadis? Est-ce que c'était vrai naguère? Est-ce que c'est vrai aujourd'hui?
Depuis quelques années, il y a des efforts dans ce sens-là. C'est-à-dire de non plus faire du football un simple amusement, un simple sport, mais aussi un élément de solidarité sociale, puis d'éducation. Et d'ailleurs, il y a des grands joueurs de football très connu en France, puisqu'il y en a un qui était le capitaine du Paris Saint-Germain, qui s'appelle Rai, qui a été le capitaine de la Seleção brésilienne. Et il a créé à São Paulo, pour les quartiers, une association qui s'appelle Gol de Letra, et précisément est faite pour essayer, dans des quartiers défavorisés, de procéder précisément à l'intégration et à l'éducation par le football. Donc c'est vrai que le football a un rôle social et éducatif aussi reconnu.
Les gouvernements, après Vargas, s'en sont mêlés, l'ont utilisé comme un instrument au service de leur politique?
Bon, le football a toujours été lié, sans être complètement lié. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un sport sous domination politique au Brésil, même si ça a toujours été le sport du Brésil dans les dernières décennies. Il ne faut pas oublier que la mondialisation du football s'accompagne aussi de la démocratie. La démocratie, c'est très important. Le Brésil est un grand pays démocratique. Le gouvernement s'est toujours intéressé au football. Mais les instances du football et le football n'ont été que peu investis directement par la politique.
Vous avez été ambassadeur, Yves Saint-Jour, au moment où on est passé de la période Lula à la période actuelle de Rousseff,
oui.
Est-ce que l'un et l'autre, lui et elle, ont pour le football une dilection particulière?
Oui, bien entendu, parce que quand on est brésilien, on porte forcément pour le football une dilection particulière. Les choses d'ailleurs doivent être dites d'une certaine façon. D'abord, on adhère à un club. D'abord, on est quelqu'un qui est dans un club et qui est le supporter d'un club. C'est fondamental. C'est ça, la première entrée. Et là, c'est les 100 et l'équipe nationale ne vient qu'après.
Le supporterisme, comme on a dit, a été inventé au Brésil. Supporterisme.
Absolument. Et on a souvent coutume de dire qu'au Brésil, on peut changer de tout, notamment de parti politique. Il y a un quart, un tiers des députés, des sénateurs qui changent de parti politique pendant la législature pendant laquelle ils sont élus. Mais de club de football, ça jamais. Cela fait partie de l'identité brésilienne d'appartenir à un club. Et chacun appartient à un club, appartient ou supporte un club. Et il s'intéresse évidemment pour les championnats.
Et parfois, à l'intérieur même d'une même ville, il y a des affrontements.
Voilà, exactement. Il y a des affrontements entre deux clubs. C'est le cas de Flamengo et du Fluminense à Rio de Janeiro, le Flamengo étant considéré comme un club populaire et le Fluminense comme un club plus huppé. Donc on adhère au club. Après, évidemment, il y a la communion nationale dans la Seleção et évidemment les politiques y participent. Et bien entendu, quand en 2007, le Brésil obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 2014, c'est une grande histoire politique. Lula s'est mobilisé, les gouverneurs des différents États se sont mobilisés et c'est considéré comme une victoire politique.
C'est pourquoi aussi les grandes vedettes symboliques, les personnages flamboyants qui incarnent à un certain moment le football dans ce qu'il a de plus efficace et de plus pur, ont un rôle évidemment social. Vous évoquiez Pelé, le roi Pelé, tout à l'heure, nous en parlions, il y a comme souvent en histoire, une sorte d'opposition binaire avec un autre personnage, c'est-à-dire Garrincha. D'un côté, le noir qui réussit en politique et qui est devenu un mythe et qui a 72 ans aujourd'hui, est une personnalité brésilienne essentielle.
Absolument.
Nous l'avons décoré d'ailleurs. Et en face, le mulâtre qui est finalement mort dans la déchéance, dans l'alcoolisme.
Voilà, exactement. Il y a eu Garrincha, l'ange aux jambes tordues, qui était le bonheur du peuple, on disait, et qui était un formidable joueur, qui a été à peu près contemporain de Pelé pour les deux premières Coupes du Monde, en 58-62, et qui est un joueur imprévisible, exceptionnel, et qui, effectivement, va mourir relativement jeune. Il va mourir à 50 ans, il est perdu de boisson, il a une vie dissolue. Pendant un temps, il a une compagne, une femme même, qui est la grande chanteuse de samba brésilienne.
Alors que Pelé a épousé une blanche blonde.
Voilà, Pelé a lui-même d'ailleurs eu quelques aventures. Mais,
nous ne demandons pas de détails.
Voilà, on n'ira pas dans le détail. Effectivement, Gilberto Freire dit le football brésilien, il est dionysiaque par rapport au football anglais qui est apollinien. Et il dit aussi, Pelé, il est un peu apollinien quand même, tandis que Garrincha, lui, il est dionysiaque. Et donc, il y a y compris des oppositions à l'intérieur, internes au football brésilien.
D'ailleurs,
Garrincha, c'est vraiment, effectivement, une des légendes du football. D'ailleurs, le stade de Brasilia porte son nom.
D'ailleurs, les poètes eux-mêmes, les poètes populaires, se sont emparés du personnage de Garrincha, puisque Vinicius de Moraes en parle comme de l'ange aux jambes tordues. Et un autre poète célèbre et populaire, Drummond de Andrade, souligne la condition humaine de Garrincha, toujours le caractère représentatif. Il écrit « S'il y a un dieu qui régit le football, ce dieu est surtout ironique et farceur. Et Garrincha fut un de ses délégués chargés de se moquer de tout et de tous dans les stades. Mais comme c'est aussi un dieu cruel, il ôta à l'étourdissant Garrincha la faculté de percevoir sa condition d'agent divin. Ce fut un pauvre et petit mortel qui aida un pays entier à sublimer ses tristesses. Le pire est que les tristesses revinrent et qu'il n'y a pas d'autre Garrincha disponible. Nous avons besoin d'un nouveau qui nous alimente en rêve. »
Je partage complètement la vue de Drummond de Andrade. Il accompagne toutes ces années, Drummond de Andrade, aussi des années 30 et 40, et cette vision du Brésil et de cette, comme je disais, de ce Brésil qui puise dans cette histoire, dans ce métissage, dans ces gens du peuple, son identité, la force de son identité. Et Garrincha est effectivement une idole et en même temps qui sent le souffre. L'histoire du football brésilien est plein de ces idoles-là. il y a cette ambivalence toujours. Et puis il y a.
Et Ronaldo aussi, voilà. Toujours au Brésil.
Et Ronaldo, toujours au Brésil, qui lui aussi est un personnage très, très important, qui lui aussi vient effectivement du peuple.
Alors la question est évidemment l'arrivée de l'argent en force, avec tout ce que cela implique de corruption possible ou avérée. On en parle de plus en plus à partir des années 2000. Écoutez cette correspondance de Rio de Janeiro, de l'excellente journaliste Annie Gasnier, qui représente RFI là-bas. Elle s'exprime là sur France Inter le 10 décembre 2001 à propos du scandale qui a éclaté au sein du football brésilien, non sans éclabousser d'ailleurs au-delà des frontières.
Les finalistes du championnat brésilien sont cette année deux petits clubs peuplés de joueurs méconnus mais motivés et talentueux. Les riches grandes équipes ne se sont même pas qualifiées pour les quarts de finale. L'argent ne fait décidément pas le bonheur des supporters brésiliens alors qu'il fait sans nul doute celui de dirigeants peu scrupuleux. Le rapport des sénateurs a entraîné ces derniers jours les Brésiliens au cœur du sale monde qui hante les vestiaires des clubs du Brésil. 1600 pages où 17 dirigeants apparaissent organisés comme une véritable mafia du ballon rond. Au lieu de la drogue ou de prostituées, des joueurs, leurs fabuleux transferts et les millionnaires contrats de retransmission télé qui alimentent une chaîne de blanchiment d'argent, d'évasion et de fraude fiscale et des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Accusé le plus emblématique, le président de la Confédération brésilienne de football, la CBF, Ricardo Teixeira, avait été mis en place par son beau-père, João Havelange, alors tout-puissant président de la Fédération internationale. En 12 ans de gestion, Ricardo Teixeira a clairement confondu son patrimoine avec celui de la CBF, au point d'amasser une fortune millionnaire, alors que la CBF, pourtant liée à de puissants sponsors, enregistrait l'an dernier un profond déficit. En représentation à New York, ville qui n'est pas véritablement une capitale du football mondial, Ricardo Teixeira louait une limousine à 7000 francs la journée et dépensait pour chacun de ses repas 5000 francs. La justice a promis de compléter cette enquête pour inculper les 17 personnages dénoncés, mais leurs appuis politiques pourraient leur assurer, une fois encore, la tranquillité de l'impunité.
On n'a pas l'impression que depuis 2001, date de ce reportage, les choses aient été vraiment clarifiées. Nous observons tout récemment ce qui peut surgir d'inquiétude sur les conditions dans lesquelles le Qatar a été désigné pour une prochaine Coupe du Monde, Yves Saint-Jour. Et ces dirigeants qui sont évoqués ici sont restés en fait en place très longtemps.
Oui, ils sont restés en place longtemps et certes, ils ont passé la main désormais, et notamment parce que ces questions de corruption ont fini par les faire partir. Mais c'est vrai que João Havelange, par exemple, a dirigé la FIFA de 1974 à 1998. Donc il est resté pendant 24 ans et il a accompagné effectivement l'émergence du football dans la mondialisation, si j'ose dire, avec les droits télé, les billetteries, l'organisation des transferts de joueurs, etc. Et tout ça a provoqué une extraordinaire mobilisation d'argent. Derrière tout cela, il y a eu beaucoup de scandales de corruption. Et autant le dire, ce sont des choses qui restent des préoccupations qui sont légitimes parce que, effectivement, c'est colossal. Il faut imaginer que quand nous avons gagné la Coupe du Monde de football, je dis nous parce que c'est les Français, en 1998...
Cocorico, rétrospectif.
Rétrospectif, on a battu le Brésil, ne l'oublions pas.
Non, il faut le redire,
il faut le redire, il faut le redire.
Dans cette émission.
Voilà. Et d'ailleurs, nous avons battu régulièrement le Brésil, il ne faut pas l'oublier, puisque nous les avons battus aussi en 2006, dans un quart de finale.
Vous prévoyez une réitération de l'histoire, un psittacisme.
Nous attendons évidemment le 13 juillet 2014, une finale France-Brésil au Maracana, bien sûr. Je ne saurais pronostiquer le résultat, mais enfin...
Si nous gagnons, nous rediffusons cette émission.
Voilà, ne faisons pas de pronostic et puis occupons-nous d'histoire plutôt. Mais ce qui est vrai, c'est que quand nous l'avons organisé, grosso modo, ça a coûté 500 millions de dollars, entre 500 millions et 1 milliard. La Coupe du Monde au Brésil, elle va coûter plus de 10 milliards. C'est-à-dire que c'est clair que petit à petit... Le business et les investissements autour de tout cela, c'est colossal. Et on dit que pour le Qatar, ce sera 10 fois plus encore. C'est-à-dire qu'on est dans une progression géométrique des dépenses et de l'argent qu'on mobilise pour ça. Et donc, cet accompagnement médiatique, ces infrastructures, ces transferts de joueurs multimillionnaires, même s'ils sont peu nombreux, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, c'est effectivement un des problèmes qui est soulevé par le football d'aujourd'hui.
Cela ne pose pas seulement des problèmes éthiques, cela pose des problèmes politiques et sociaux, évidemment. Daniel Cohn-Bendit, qui s'apprête pour Arte à parcourir le Brésil dans un camping-car à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde, observe que les mouvements actuels qui se sont développés contre la Coupe du Monde sont porteurs d'une défense de la démocratie en termes d'équilibre civique et aussi d'équilibre sociaux, à telle enseigne d'ailleurs que l'État brésilien, c'est lui qui l'observe dans une interview récente, a acheté un tiers des billets d'entrée pour la Coupe du Monde afin qu'il puisse les revendre ensuite aux Brésiliens à moindre coût pour un prix équivalent à 10 euros. C'est un effort désespéré pour éviter que l'argent triomphe de tout. Et pour défendre également la démocratie, puisque Daniel Cohn-Bendit raconte que très jeune, il est allé assister à des matchs, c'est sa passion, au Brésil. Il avait observé que lors de leur entrée dans le stade, les joueurs portaient une banderole immense avec cette phrase « gagner ou perdre, mais toujours avec la démocratie ». On est là au cœur de la question, Yves oui. Saint-Jour.
Mais absolument, et la démocratie, encore une fois, qui accompagne aussi le football, la mondialisation et le football, et accompagner aussi l'histoire du football brésilien, puisque il faut faire un petit retour en arrière. Pendant le régime militaire, il y a un club, le club de Corinthians de São Paulo, qui est un des clubs emblématiques du Brésil. Corinthians est de nouveau un club de la banlieue de Londres, et au début du siècle, qui est venu faire une tournée, on a pris le nom pour le donner à ce club paoliste.
Et la Grèce au-delà.
Exactement. Bien sûr, il y a la tradition grecque derrière, et ce club avait inventé ce qu'on appelait la démocratia corinthiana, la démocratie du Corinthian.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il voulait la démocratie à l'extérieur, il voulait la démocratie dans le club. Ça a un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le paternalisme, etc. Et ils se sont organisés un peu en autogestion, pour à la fois le style de jeu, la gestion des joueurs, la façon de se comporter. Et en même temps, ils étaient militants de la démocratie, on était encore dans le régime militaire. Ils étaient menés par un exceptionnel joueur brésilien qui s'appelait Socrates. Je dis qu'il s'appelait parce qu'hélas, il est mort il y a 3 ans.
La Grèce aussi.
Et c'est absolument. Et qui, frère aîné de Rai, et qui, effectivement, est porté sur son maillot des revendications démocratiques, dont une revendication qui était le vote direct maintenant pour un nouveau président élu, puisqu'on était quand même vers la fin du régime militaire et il y avait une campagne pour le suffrage universel direct pour le président de la République. Et donc cette démocratie corinthienne, qui est un moment très particulier de l'histoire du football brésilien, était à la fois un besoin de démocratie interne et de démocratie externe. Et quant à ce qui est aujourd'hui la question, c'est vrai que la démocratie brésilienne d'aujourd'hui est une démocratie sociale aussi, et que donc elle est, les mandats de Lula ont marqué cela. Et donc, dès le départ, ils ont conquis la coupe et en même temps, ils se sont trouvés dans cette situation d'une relation difficile avec l'argent. Et ils ont fait beaucoup de concessions à l'argent, aux sponsors, même alors que c'était interdit de boire de l'alcool, compte tenu des sponsors, on va pouvoir éventuellement boire de l'alcool dans les stades, enfin de la bière, des choses de ce genre.
Beaucoup de joueurs ont accepté de se faire les porte-parole de la puissance des brasseries.
Mais exactement. Le gouvernement brésilien a voulu, en même temps, essayer de montrer que quand même le football gardait son identité, qui était effectivement une identité sociale au Brésil. Et c'est cette contradiction qui est difficilement portée.
Contradiction qui s'est exprimée aussi dans l'émergence pour la première fois de protestations d'un Brésil qui a marqué qu'il n'aimait pas le foot, ou en tout cas qu'il n'aimait pas les conséquences de cette coupe avec cette puissance insolente de la FIFA qui est dénoncée dans des manifestations de rue, notamment certains disant même que le Brésil était devenu une FIFA-lande.
C'est exactement ce qui s'est produit. Ça s'est produit en juin de l'année dernière, au moment de ce qu'on appelle la Coupe des Confédérations, que le Brésil a gagné brillamment et qui est une espèce de galop d'essai, de répétition générale de la Coupe du Monde. Et effectivement, les gens sont descendus dans la rue, ont manifesté. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que pour que la Coupe du Monde soit un grand moment d'unité, d'identité et d'unanimisme social et politique, il faut que le peuple brésilien puisse s'y rendre, les billets pour entrer dans les stades, mais aussi puisse s'y rendre des transports, puisse profiter de tout cela. Et l'accompagnement d'infrastructures, d'éducation, de santé, de transport, eh bien, c'est ça qui est revendiqué par un Brésil qui a beaucoup changé, bien évidemment. Il est encore plus urbain, beaucoup plus urbain qu'il n'était en 1950, bien sûr. Maintenant, 80% des gens vivent en ville.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lit, en quelque sorte, dans l'évolution de l'architecture urbaine, par exemple, à São Paulo ou à Rio, on peut faire une lecture de ces affrontements même, avec en particulier l'emprise sur les favelas d'un certain nombre de constructions d'emprise sportive. Écoutez donc ce reportage de François Cardona à Rio de Janeiro à propos des habitants d'une favela qui sont menacés d'expulsion à cause de la Coupe du Monde de 2014. Et également dans la perspective des JO, des Jeux Olympiques de 2016. C'est un lot qui vont également avoir lieu au Brésil. C'est un extrait de l'émission Ailleurs sur France Inter en septembre 2012.
Voilà ma maison. Entrez, entrez. Faites pas attention au bazar.
Peña habite depuis plus de 21 ans dans cette petite favela. La cinquantaine, cette femme de ménage toute menue, déborde d'énergie. Sa maison, avec sa grande cuisine, elle l'a construite de ses mains, avec son mari.
Voilà notre salon. Nous avons trois chambres. Sauf qu'on n'arrive jamais à terminer les travaux, car tous les ans on nous dit que ça va être détruit. Alors ça reste comme ça, inachevé.
Peña sort de chez elle et ne ferme pas la porte à clé. Dans cette petite communauté bordée de cocotiers, tout le monde se connaît. Contrairement aux autres favelas de Rio, il n'y a pas de trafic de drogue ni de bande armée. Mais il y a un long mur en briques, haut de plus de 3 mètres, qui sépare la favela du futur village olympique. Altaïr, le président de l'association des habitants, est un homme en colère. Mais déterminé aussi, cet après-midi, en dépit des menaces d'expulsion, il construit une nouvelle petite maison.
Dans le film Robin des Bois vole aux riches pour donner aux pauvres. Ici, c'est le contraire. Ici, nos hommes politiques volent aux pauvres pour donner aux riches. Alors bien sûr que je suis en colère. Rio, ville merveilleuse, mais pour qui ? Toute la société ou juste une partie ?
Il y a un an, les habitants sont entrés en résistance. Aidés par des architectes et des urbanistes, la petite favela vient de remettre au maire de Rio un plan de rénovation alternatif. Respect des normes environnementales le long de la lagune, rénovation des maisons insalubres, égouts, routes, tout a été prévu, même les crèches et les écoles. Et pour Carlos Weiner, professeur à l'université de Rio, ce plan coûte 40% moins cher que la solution de la mairie.
La victoire de la ville autonome deviendra un espoir pour toutes les communautés qui, à Rio et au Brésil, luttent contre la ségrégation sociale.
De l'autre côté du mur, les travaux ont commencé. Le village olympique doit être prêt pour 2016. Ensuite, tout sera transformé en résidence privée de luxe. La petite communauté de Villa Autodromo va détonner dans ce paysage ultra-moderne. Pourtant, Peña ne veut pas renoncer à son rêve.
Mon mari est professeur d'éducation physique, donc on voudrait ouvrir une salle de sport ici. On n'a pas beaucoup de sous, alors on construit petit à petit. C'est mon rêve, c'est notre rêve de pouvoir installer ici cette salle de gym.
Villa Autodromo n'est pas la seule favela à être menacée de destruction. À Rio, plus de 20 000 personnes vont être déplacées en vue de la Coupe du Monde de football de 2014 et les JO de 2016.
On voit bien, là encore, Yves Saint-Jour, du point de vue de l'organisation de l'espace, cette tension entre les effets positifs d'intégration du football, en sens inverse, il risque de tension au profit d'une ségrégation sociale affirmée.
La difficulté, en réalité, aujourd'hui, c'est que le Brésil, dans les dernières années, a connu un enrichissement général. C'est-à-dire que beaucoup de gens, des dizaines de millions de personnes,
sont sortis de l'extrême pauvreté.
Ce qui se passe est positif. Ils demandent maintenant, au-delà de la consommation de base, de l'éducation, de la santé, des transports et évidemment un habitat correct. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une espèce de contradiction, puisque précisément, les choses vont mieux, les gens, dans une démocratie, revendiquent, et en même temps, ces infrastructures ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Construire des stades, c'est bien, mais encore une fois, des chemins pour y aller, des équipements de toute nature, c'est très important. Et au fond, la contestation se focalise là-dessus, c'est-à-dire que la Coupe du Monde et ensuite les Jeux Olympiques à Rio soient l'occasion d'un grand travail d'infrastructure sociale, éducative et de santé et de transport, et pas seulement juste du pain et des jeux, et juste de la construction de stades. Parce que la construction de stades, on en fait partout. Lula, au moment de la conquête de la Coupe, a décidé qu'il y aurait des stades dans 12 villes du Brésil pour la Coupe du monde de football. Ce n'était pas nécessaire forcément d'aller dans 12 villes, mais précisément, il a voulu que tout le territoire soit maillé par ces stades. Mais en même temps, il y a cette question d'aller beaucoup plus loin dans les infrastructures de santé, de transport, etc. Et c'est vrai qu'une ville comme Rio, puisqu'il s'agissait de Rio dans ce reportage, avec la Coupe du Monde, le Maracana refait, un certain nombre de transports refaits, puis les Jeux Olympiques complètement remodelés, et la ville des favelas, de cet habitat plus ou moins précaire, eh ben, c'est vraiment le miroir de ces contradictions, de ces difficultés, et du coup, en partie de cette revendication sociale qui s'exprime logiquement, puisque on est évidemment dans le contexte de cette préparation, de cette tension vers la Coupe du Monde. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce que pendant la Coupe du Monde, il y aura encore des manifestations? Je ne sais pas. Très souvent, quand même, les Brésiliens aiment tellement le football qu'ils vont peut-être moins manifester, mais il est assez fréquent que les grands événements sportifs, notamment en Amérique du Sud, on pense aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, soient accompagnés par des grands mouvements sociaux.
Eh bien, vous nous avez fort bien montré, grand merci Yves Saint-Jour, l'ambivalence du football dans ses relations avec la réalité brésilienne sur le long terme. Et rien ne vaut mieux que le long terme pour comprendre notre actualité. Nous avons utilisé beaucoup un excellent livre de Michel Raspo qui s'appelle « Histoire du football au Brésil » qui est paru voici 4 ans, en 2010, aux éditions Chandaigne. Hommage rendu à son auteur. Vous avez vous-même donné tout récemment dans l'histoire de juin 2014, qui est encore dans les kiosques, un article qui évoque cette défaite dramatique de 1950. Le Brésil perd à domicile. Une défaite dont on a tant à apprendre en considérant les réactions, n'est-ce pas, les réactions du public, le chagrin extrême.
On voit bien quelle passion il peut y avoir autour de ce sport, du football. Et on voit bien aussi ce que peut ressentir le peuple du Brésil, c'est-à-dire des grands enthousiasmes et puis quelquefois de grandes déprimes. Ça arrive, de la nostalgie, ce qu'on appelle la saudade. C'est pas vraiment la nostalgie, c'est pas vraiment la mélancolie, c'est quelque chose de très particulier. Et le Brésil croit en lui, croit énormément en lui, et puis de temps en temps, il y a un accident qui fait que tout d'un coup, il se remet en cause. Et donc, c'est un peu cette histoire que raconte, entre autres, ce 16 juillet 1950.
Vous avez publié, il y a déjà assez longtemps, à vrai dire, avec Marie-Danielle Demélas, Une vie quotidienne, la fameuse collection d'Hachette, Une vie quotidienne en Amérique du Sud au temps de Simon Bolivar. On devrait bien, je le signale à votre éditeur, rééditer ce livre qui, naturellement, vu sa qualité, est épuisé. Vous pourrez, mes chers auditeurs, vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète encore sur notre site avec les références, vous le savez, des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons à l'occasion de la canonisation des deux papes que vous savez avec André Vaucher. Nous parlerons de la question de l'invention des saints dans l'Église catholique, des origines à nos jours. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou et Nathalie Lempereur, réalisée comme chaque semaine par Patrick Molinier, avec à la prise de son Clément Daté, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archivinas, Marie Jarosse. Dans quelques instants, je passe le relais, je passe le témoin à Dominique Rousset pour l'économie en question.